Thierry Pélissier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géologue, vous êtes invité par l'Université populaire de Caussade à venir nous proposer une conférence samedi. Ce sera à 16h30 au Récollé, c'est bien sûr tout gratuit. Une conférence autour du phosphate. Vous êtes président de l'association Les Phosphatières du Quercy. Le phosphate, c'est la deuxième matière première échangée au monde. Est-ce que dans ce contexte, on peut parler des phosphatières du Quercy? Et puis d'ailleurs, c'est quoi le phosphate?
Alors, le phosphate, c'est un élément, disons, chimique qui est fondamental pour le vivant, en fait. C'est quelque chose de très, très important. Sans phosphate, il n'y a pas de vie possible. Et donc, ce phosphate est exploité de façon intensive depuis longtemps dans le monde. Mais concrètement, le Quercy a joué un rôle dans cette histoire-là, un rôle qui n'est pas très important pour le côté production industrielle, qui a par contre d'autres aspects très intéressants et d'ailleurs unique au monde pour les aspects paléontologiques. Mais disons que je vais préparer un petit peu justement de l'importance de ce phosphate dans la vie aujourd'hui, dans la production agricole, dans la production aussi de nouvelles énergies, puisque c'est d'énergie renouvelable. Et concrètement, j'évoquerai la place des phosphatières du Quercy dans cette histoire-là.
Le phosphate, il est utilisé beaucoup comme engrais, surtout. C'est surtout au Maroc qu'on peut en trouver. Les phosphatières du Quercy, elles, on peut les visiter. Ça se situe dans le Lot, là, juste à côté. Alors, je ne sais jamais si on dit Bac ou Bâche.
On dit Bâche, et c'est le site du club d'Aurel, avec d'ailleurs actuellement des travaux en cours, mais qui ne sont pas contradictoires avec les possibilités de visite. Bon, sachant que sur le site, il va y avoir l'horizon 2025, donc dans un an, un site muséographique et aussi la maison de la réserve naturelle nationale géologique du Lot.
Qui est impressionnant quand on le visite, en tout cas pour ces immenses plantes, beaucoup de végétation, et puis vous parliez aussi de l'aspect paléontologique.
L'intérêt majeur au niveau mondial est au niveau paléontologique. Alors c'est vrai que ce sont des micro-milieux très particuliers avec une flore et d'ailleurs une microfaune très spécifique et souvent endémique ou du moins totalement hors contexte par rapport à ce qu'on connaît d'habitude. Mais l'intérêt vraiment au niveau scientifique, c'est la paléontologie puisque les phosphatières contiennent des millions de fossiles, des fossiles dans un état de conservation exceptionnel. On a même des momies, on a des choses comme ça. On a par exemple une salamandre dans laquelle on a retrouvé dans l'intestin les restes de son dernier repas. Voilà, on a des guêpes parasites qui pondaient dans les œufs des mouches. Bon, des choses qu'on ne trouve vraiment que dans ce secteur de notre planète. Donc beaucoup de fossiles, une qualité de préservation exceptionnelle, une grande diversité parce qu'on a bon des mammifères, mais on a aussi des serpents, des oiseaux, des amphibiens, des lézards, on a aussi des insectes et depuis peu on sait qu'il y a aussi tout un cortège de fleurs, de graines et de bois qui sont fossilisés là-dedans. Donc on a vraiment une image très très complète de ce qui vivait à l'époque, et quand je parle d'époque, on arrive sur le dernier point fondamental pour les phosphatières. En fait, elles nous ont enregistré plus de 30 millions d'années d'évolution de la Terre et de la vie. Et ça, c'est encore une fois unique.
Comment elles se forment, ces phosphatières?
Ben, disons, pour faire très simple, ce sont d'anciennes grottes assez profondes sous la surface du Cos qui, du fait de l'érosion, se sont retrouvées en communication à la surface et se sont remplies. Pour les plus anciennes, il y a 50 millions d'années. Pour les plus récentes, il y a une vingtaine de millions d'années. Se sont remplies donc d'argile, de cailloux, de sable et de phosphate. Et c'est ce phosphate qui intéressait les prospecteurs à la fin du 19e siècle et qui a donc été exploité à des fins industrielles. Mais ces travaux industriels, ce sont eux qui ont permis la découverte des fossiles. Alors évidemment, des fossiles ont été détruits à cette époque-là, mais concrètement, certains, et beaucoup d'ailleurs, ont été sauvés. Et puis, ce qui a été important, c'est que d'autres gisements beaucoup plus riches ont été découverts avant que les phosphatières du Quercy ne soient totalement vidées. Et donc, aujourd'hui, il reste pas mal de choses, et même beaucoup de choses, et des choses extraordinaires qui sont apportées des scientifiques et des paléontologues qui, chaque été, viennent fouiller dans les phosphatières depuis maintenant une soixantaine d'années.
Je crois que pour les repérer, il faut regarder dans les champs et regarder justement la différence de végétation. Si elle est plus verte, plus dense, plus luxuriante d'un côté, c'est probablement qu'il y a quelque chose à creuser.
Alors quand on a... Oui, c'était la méthode qu'utilisaient les prospecteurs au 19e siècle. Ils repéraient les zones où la végétation était plus luxuriante qu'ailleurs, même si, en fait, ce n'était pas à cause du phosphate, mais plutôt à cause de l'humidité que contenaient les argiles associées à ce phosphate. Donc ce n'était pas un indice direct de présence de phosphate, mais ça permettait quand même de localiser des poches creusées dans le calcaire et remplies de différents matériaux, dont parfois... souvent d'ailleurs, du phosphate.
Avant de parler d'une échelle un petit peu plus mondiale, si on reste là sur les causes du Quercy, il en reste encore des poches inexploitées, des choses à trouver ?
Alors, il reste des choses à trouver, oui, pour les paléontologues. Mais je peux vous rassurer, alors là ce n'est pas l'économiste qui parle, c'est plutôt l'écologiste, hein, mais je peux vous rassurer, il n'y a pas de réserve exploitable de phosphate dans le Quercy. Donc on ne risque pas, même dans un contexte mondial tendu, on ne risque pas de voir fleurir une activité minière sur ce thème-là dans les côtes du Quercy.
C'est tout à fait rassurant. Thierry Pélissier, je rappelle que vous êtes géologue, que vous êtes président de l'association des phosphatières du Quercy, qu'on va vous retrouver ce samedi à Caussade au Récollet à 16h30 pour une invitation de la série des conférences que propose tout au long de l'année l'Université Populaire. Thierry Pélissier, restez avec nous, on n'en a pas fini autour du phosphate. De retour dans ce mag où on continue à parler phosphate. On est avec Thierry Pélissier qui est géologue, qui est président de l'association des phosphatières du Quercy. C'est là tout à côté, c'est à Bâche dans le Lot. Thierry Pélissier est invité par l'Université Populaire de Caussade à proposer une conférence autour du phosphate. Le phosphate, c'est une ressource stratégique. Alors on vient de le voir, en tout cas dans le Quercy, il n'y a pas de risque de voir s'installer des grandes exploitations pour extraire le phosphate du sol. Si on parle du contexte un petit peu plus mondial, il y en a beaucoup au Maroc, je crois.
Alors, effectivement, les réserves de phosphate sont assez mal réparties à la surface de la Terre. L'essentiel des réserves connues sont au Maroc, qui est un des principaux producteurs actuels, pas le seul, mais un des principaux producteurs donc actuels. Le problème, c'est que ce phosphate est très utilisé, on l'a déjà évoqué, dans l'agriculture, mais aussi depuis peu pour tout ce qui est panneaux solaires et batteries. C'est une batterie qui sont associées à ce mode d'énergie renouvelable. Et là, il y a un marché aussi qui est en train de complètement exploser. Et du coup, entre la situation de quasi-monopole qui se trouve au niveau des réserves mondiales, la demande qui explose à tout niveau, que ce soit agricole ou que ce soit donc énergie renouvelable, eh bien, il y a une flambée des cours, il y a une exploitation très importante de la ressource et tout cela conduit à une situation actuellement assez tendue et à une crise annoncée du phosphate dans les décennies à venir.
Alors là, c'est l'économiste qui parle. Qu'en pense le géologue ?
Alors le géologue, il pense qu'il y a peut-être d'autres réserves. Et d'ailleurs, l'été dernier, la Norvège a fait une annonce comme quoi ils avaient découvert un énorme gisement de phosphate. Donc il y a lui seul représenté autant que toutes les réserves connues avant au monde, y compris celle du Maroc, et ce genre de découverte peut complètement changer la donne sur un plan économique, puisque, bon, évidemment, ça, il n'y a plus de situation de monopole, ça change un petit peu les choses. Après, l'exploitation du phosphate, elle se fait de toute façon avec des impacts environnementaux et sanitaires assez importants. Alors, c'est valable pour la phase d'exploitation sur les sites mêmes, où on a quand même pas mal de nuisances qui vont être générées par l'activité extractive. C'est valable aussi au niveau sanitaire et au niveau environnemental toujours par l'utilisation des phosphates. L'utilisation des phosphates, bon, c'est un des facteurs principaux de l'eutrophisation. Bon, l'eutrophisation, c'est quand des rivières se transforment en égouts à ciel ouvert parce qu'elles sont finalement trop bien nourries, il y a trop d'engrais qui arrivent. Une application, une manifestation bien connue, c'est celle des marées vertes en Bretagne, par exemple, même si le phosphate n'a pas l'origine habituelle, mais voilà. Donc il y a ces problèmes-là, et il y a aussi des risques, en tout cas, sanitaires qui sont pointés, parce que le phosphate est également utilisé comme additif alimentaire, et l'excès de phosphate dans l'alimentation semble poser des problèmes de santé.
Des problèmes de santé, des problèmes écologiques, cette extraction du phosphate. Et puis, je pense aux scientifiques aussi, vous, aux phosphatières du Quercy, à Bâche, vous avez pu relever plein de données. Vous me parliez des fossiles, des momies, des larves dans les yeux de mouches. Il y a plein de choses qui pourraient être intéressantes à aller regarder aussi du côté de la Norvège, du Maroc.
Alors, en Norvège, je ne sais pas encore, parce que le gisement la découverte a été annoncée, mais on a assez peu d'informations sur la nature de ce gisement-là, parce qu'il existe plusieurs types de gisements de phosphate. Donc, en l'absence de données scientifiques et de données factuelles, je ne peux pas parler de la Norvège et de son intérêt paléontologique. Au Maroc, oui, au Maroc, c'est notoire. Bon, il y a déjà toutes les dents de requin qu'on trouve un peu partout sur les bourses minéraux et fossiles. Donc ces dents de requin viennent pour la plupart des gisements marocains, mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres intérêts paléontologiques dans ces gisements-là, oui, bien sûr. On peut trouver des choses, et dans tous les cas, ce qui est intéressant, et le côté positif, c'est que ces fossiles, que ce soit ceux du Maroc, que ce soit ceux du Quercy, il y a l'avantage d'être, de représenter une longue durée de temps, mais en fait nous permettent de voir comment la biodiversité évolue en réponse au changement climatique et en réponse aussi à l'arrivée d'espèces invasives. Donc en employant ces trois termes, pas du tout au hasard, je cherche à montrer comment la recherche paléontologique, autrement dit le regard du passé, nous permet de mieux comprendre ce que nous sommes actuellement en train de vivre.
On peut voir sur la plaquette de l'Université Populaire cette question au sujet de votre conférence. Quelle place a eu et peut avoir le Quercy dans ce contexte qui préfigure une crise mondiale? C'est ça un petit peu l'intérêt scientifique et pédagogique que vous pouvez apporter.
L'intérêt, il est d'une part quelle est la place du Quercy dans l'histoire du phosphate avec la situation de crise donc industrielle, économique qui se profile à l'horizon, et c'est aussi cette place du Quercy dans la compréhension des mécanismes coordonnent tout ce qui relève des changements climatiques, des changements environnementaux et de l'évolution de la vie. Oui.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Thierry Pélissier?
Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Disons, plutôt que des souhaits pour moi, j'aurais des souhaits pour la planète et peut-être pour une, au-delà d'une simple prise de conscience des problématiques qui nous attendent, d'une réelle mise en œuvre de solutions efficaces et concrètes. Je suis un peu utopiste, mais bon, il faut y croire, sinon, ça sert à rien.
Vous êtes géologue, vous êtes président de l'association Les Phosphatières du Quercy. Vous êtes invité par l'Université Populaire de Caussade à nous proposer cette conférence, Le Phosphate, une ressource stratégique. Ce sera ce samedi à 16h30 au Récollet. C'est gratuit. On vous retrouve là-bas. Thierry Pélissier, merci beaucoup.
Merci et donc à très bientôt.